Bonjour à toutes et à tous. Pénurie de logements, prix des maisons et loyers exorbitants. L'achat des résidences secondaires a bouleversé le marché de l'immobilier en Bretagne et notamment dans le Morbihan, d'autant plus depuis les confinements successifs. Dans le Morbihan, près d'une habitation sur 5 est une résidence secondaire. À Arzon, c'est carrément 4 sur 5 qui sont des résidences secondaires. Face à ce phénomène, Neil Kawissin, membre de l'Union démocratique bretonne, a fait une proposition lors des dernières élections régionales, le statut de résident. Alors en quoi cela consiste et comment cela pourrait résoudre ce problème devenu majeur dans le département? C'est ce qui va nous expliquer dans Adupépa. Neil Kawissin, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, avant d'étudier votre proposition dans la seconde partie, on va essayer dans la première partie de comprendre ce phénomène. Tout d'abord, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau.
Non, des résidences secondaires, on en avait déjà à peu près 13% dans l'ensemble de la Bretagne avant la crise Covid. Et effectivement, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a des taux de cet ordre-là.
Mais c'est un phénomène qui s'est décuplé avec la crise du coronavirus?
Oui, on ne mesure pas encore très bien à quel point c'est augmenté. Ce qui est certain, c'est que c'est augmenté. Ça, tous les notaires le disent, qu'il y a plus de demandes sur les résidences secondaires. Et surtout, ça vient dans un contexte où, comme la population bretonne augmente, ça devient plus problématique qu'avant d'avoir ce parc de logements qui est gelé finalement à l'année.
Sur 3,2 millions de résidences secondaires en 2017, 40% se situent sur le littoral. C'est ce littoral qui pousse à acheter en Bretagne?
Oui, alors c'est très clair, hein, les taux très très élevés, on les trouve sur le littoral. 20, 30, ça va jusqu'à presque 80% à Arzon, c'est un cas extrême, mais plus de 50%, c'est pas rare, notamment dans le Morbihan, qui est un département qui a 18% de résidences secondaires sur l'ensemble de son territoire. Je devrais dire qu'il y avait, parce que ça, c'est avant Covid. Donc avant la hausse de la demande, je n'ai pas les chiffres récents. On peut penser que ça va être plus. Il semble que ça se développe aussi dans l'intérieur des terres, plus seulement sur le littoral. Jusque-là, l'intérieur était relativement épargné. On avait quelques zones où ça pouvait dépasser les 20%, mais c'était assez exceptionnel. Et c'était dans des zones où le marché du logement était peu tendu. Là, on va probablement en avoir plus, mais je ne peux pas encore vous dire combien.
C'est un phénomène qui existait déjà sur le reste des côtes françaises?
Oui, hein, c'est assez généralisé dans tout l'ouest de l'Europe. Les régions relativement périphériques, avec un littoral ou avec des montagnes, sont concernées par ce phénomène-là. Donc en France, on va le retrouver sur les côtes vendéennes, sur la côte de la Charente, au Pays Basque, en Corse évidemment, sur le littoral de Provence et de Normandie. Les seuls littoraux qui ne sont pas touchés, à ma connaissance, c'est les littoraux très urbanisés. On a beaucoup moins de résidences secondaires à Saint-Brieuc, par exemple, qu'à Ploie, pour d'évidentes raisons.
Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus impactées en Bretagne et dans le Morbihan?
Évidemment, le littoral, et en particulier le golfe du Morbihan. Donc c'est là qu'on a des taux très très importants qui peuvent dépasser les 60%. Hein, donc on a les deux tiers par endroit de résidences secondaires dans la commune. Ça va être globalement entre Carnac, Arzon, sur la presqu'île de Ruiz par exemple. C'est les pays de Vannes et d'Aurès, c'est là que c'est le plus fort. Et bien sûr sur les îles.
Ce qui crée encore plus de problèmes, j'imagine, sur les îles.
Bah oui, parce qu'en plus, quand on vit sur une île, on ne peut pas aller dans la commune d'à côté s'il y a pas assez de logements dans la commune. C'est ça ou le continent. Donc le problème est plus aigu. Et en plus, c'est des milieux très contraints, où c'est plus compliqué de construire, pour de bonnes raisons, préservation du littoral et des milieux. L'effet sur la vie quotidienne est beaucoup plus fort que sur le continent.
Et les campagnes également commencent à être impactées?
Oui. Alors, dans quelle mesure, j'ai pas les chiffres, mais ce qui est certain, c'est que tous les notaires et tous les habitants qui sont attentifs au phénomène disent que les prix augmentent dans les campagnes et que c'est pas que pour de la résidence principale. Donc, est-ce que ce sera plus 30%, plus 40%? Ça, je sais pas encore, mais il va falloir être très vigilant sur les campagnes aussi.
On va essayer de comprendre maintenant qui sont ces personnes qui viennent s'installer dans ces résidences secondaires. On pointe souvent du doigt les Parisiens, mais est-ce qu'on sait d'où proviennent ceux qui font l'achat d'une résidence secondaire?
Les notaires qui sont exprimés dans la presse parlent d'un tiers de Parisiens. Je pense que c'est un Parisien au sens large, ça doit être francilien à mon avis plutôt. Les seuls chiffres que j'ai sur les propriétaires de résidences secondaires viennent d'une étude du Comité régional du tourisme, étude récente qui a été faite en 2020 je crois. Alors c'est pas un recensement, donc c'est pas global, c'est déclaratif, tout le monde n'a pas répondu, mais on était sur à peu près un gros tiers de franciliens pour les propriétaires, un peu moins d'un tiers d'habitants de la Bretagne et le reste d'autres régions ou d'autres pays. Donc c'est assez partagé, mais il y a un gros apport extérieur effectivement.
En général, c'est souvent des habitants des grandes métropoles?
Oui, effectivement, puisque c'est là que le besoin d'avoir un pied-à-terre au bord de la mer ou à la campagne est le plus important.
On sait également que 66% des personnes qui ont une résidence secondaire ont plus de 60 ans, donc ce sont souvent des personnes qui approchent de la retraite et qui investissent peut-être pour leur lieu de retraite?
Ben, pas tant que ça. C'est un argument qu'on m'a très souvent donné, mais selon l'étude du Comité régional du tourisme que je viens de citer, seulement 11% des propriétaires de résidences secondaires envisagent d'en faire leur résidence principale. Donc ça existe, Mais c'est minoritaire comme phénomène et la plupart du temps, c'est destiné à rester dans les zones secondaires.
Alors la manière d'acheter également a changé, notamment depuis l'épidémie de coronavirus. On entend de plus en plus de témoignages de Parisiens qui auraient acheté par téléphone sur simple photo sans visiter.
Alors oui, ça c'est très répandu. Hein. Les achats sans visite, on en entend parler autour de nous. Enfin moi, voilà, dans le Trégor Guelo où je vis et je travaille, j'ai entendu parler de ça très fréquemment. C'est un vrai problème pour plein de raisons, parce que ça veut dire que ça exclut les gens qui veulent vivre sur place, parce que quand on veut vivre sur place, on doit visiter, il n'y a pas le choix. C'est moins nécessaire quand c'est un achat spéculatif ou pour une résidence secondaire et qu'on a les moyens de toute manière d'éponger la casse si c'est un achat irréfléchi. Mais il y a effectivement une sorte de folie sur le marché, ça surchauffe et les biens partent à une vitesse folle. Ça, c'est un vrai problème.
Ceux qui ne visitent pas sont peut-être des personnes qui ont comme ambition peut-être de revendre le bien par la suite ?
C'est probable. C'est ce que je pense. Ou alors... c'est des gens qui paniquent un peu parce qu'ils veulent absolument acheter, il y a beaucoup de demandes, donc ils ont les moyens, et puis donc pour être sûr que le bien leur passe pas sous le nez, ils achètent tout de suite, mais dans ce cas-là c'est irrationnel et c'est risqué d'ailleurs.
C'est la loi de l'offre de la demande, le fait qu'il y ait moins d'offres qui fait qu'aujourd'hui les loyers et le prix des maisons augmentent ?
Alors oui, évidemment, le fait qu'il y ait moins d'offres, parce que voilà, on a des gens de toute la France et au-delà qui veulent acheter en Bretagne, pas seulement pour de la résidence principale, avec des moyens qui sont souvent plus importants puisque les salaires sont plus élevés en région parisienne qu'en Bretagne, et si on a eu la chance d'être propriétaire en Ile-de-France et qu'on revend, on peut acheter plusieurs maisons en Bretagne, enfin on pouvait. Donc effectivement, c'est la loi de l'offre et de la demande sur un marché qui n'est pas si régulé que ça finalement.
Ça conduit donc à une pénurie de logements ?
Oui, ça conduit une pénurie de logements, en tout cas pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter 400 000 euros une maison sans la visiter, il y a une pénurie, à l'achat et à la location, parce que ça a des conséquences aussi sur la location. Alors sur l'ensemble de la Bretagne, c'est 330 000 logements quand même qui sont soustraits à la résidence principale. C'est des achats qui sont soustraits à l'achat pour des résidents principaux, mais pour de la location aussi. Et quand des investisseurs achètent très cher un bien immobilier, s'ils le louent, ils vont le louer cher aussi pour rattraper le prix d'achat. Donc effectivement, une partie de la population est assez subitement mise de côté du marché immobilier, qui jusque-là, sauf exception, enfin sauf dans les métropoles et quelques secteurs littoraux, étaient accessibles en Bretagne.
Vous le disiez, donc à part ceux qui ont les moyens d'acheter une maison de 400 000 euros, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver une maison en dessous par exemple de 200 000 euros ?
Ça arrive, alors moi dans le Trégor j'en vois, mais ça va souvent être des biens dégradés pour le coup, donc il faut compter pas mal de travaux en plus. Et ces offres-là partent très vite.
Alors même les agents immobiliers également se plaignent, ils ont du mal aujourd'hui à trouver des biens à proposer à leurs clients.
Oui, j'ai entendu la même chose, effectivement. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, tout simplement. Il est justifié de parler de pénurie.
On voit du coup certains locaux qui se plaignent des agents immobiliers qui les harcèleraient pour savoir s'ils vendent leurs biens, voire qui rentrent dans certaines propriétés pour voir si elles ne sont pas à vendre. Ça crée donc des détentions.
J'ai entendu parler de ça. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que comme le marché est très porteur, il y a des agences immobilières qui s'ouvrent et dans certains territoires, ça peut prendre la place des petits commerces. Moi, j'ai eu des témoignages à Plérin où une boulangerie, une boucherie sont transformées en agences immobilières. Et donc, pour les gens qui vivent là à l'année, ça veut dire que faut aller en voiture à la grande surface, quoi. Ça réduit la vie sur place.
Quelles sont les conséquences pour ceux qui habitent sur le territoire, du coup, de cette pénurie de logements ?
Des conséquences assez multiples. Alors pour ceux qui sont déjà propriétaires ou locataires, l'accès au logement est maintenu. Par contre, ça va être compliqué de déménager. En tout cas, ça va être risqué de déménager. Moi, je connais des gens qui sont arrivés en Bretagne juste avant la crise Covid, qui ont trouvé une location provisoire, qui leur convenait pas forcément, mais c'était en attendant de trouver mieux, ils osent plus déménager là. Et pareil, si on vend, on va bien vendre. Mais faut voir ce qu'on pourra acheter après. Donc ça réduit la mobilité, première chose, la mobilité résidentielle. Les gens sont, en tout cas les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens sont plus coincés qu'avant. Ça veut dire que ça peut être compliqué pour des gens de s'installer. Il y a des gens qui voient leurs enfants essayer de s'installer après leurs études au pays et qui n'y arrivent pas. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. À Lannion, par exemple, on crée beaucoup d'emplois en ce moment. Enfin, des entreprises de taille intermédiaire recrutent des centaines de personnes et sont prêtes à les former gratuitement, mais... les gens ne trouvent pas à se loger. J'ai entendu parler de ce problème-là aussi pour l'hôpital de Guingamp pour loger des infirmières. Et on ne parle pas que de bas revenus. Pour le coup, les entreprises dont je parle qui recrutent à Lannion recrutent aussi des ingénieurs et c'est la même chose. On a ce problème de ce genre de soucis-là, des emplois qui vont être non pourvus. Et là où il y a vraiment beaucoup de résidences secondaires, notamment sur les côtes, ça veut dire moins de vie sociale, moins d'activité associative, moins de commerce à l'année. En été, oui. mais elle en est moins. Ça veut dire aussi des problèmes de cohésion sociale parce que la population âgée et à la présence intermittente, ben, lui faut des services particuliers, des services médicaux et paramédicaux. Dans le paramédical, les gens ne sont pas forcément très bien payés, donc ne peuvent pas vivre sur place.
Donc ça crée de l'emploi, mais les personnes qui pourraient travailler dans ces emplois n'ont pas de logement pour se loger.
Voilà, donc ça veut dire des trajets domicile-travail plus importants. Donc pollution, fatigue, des coûts. Et c'est effectivement, ça crée des petits pics d'emploi saisonniers, comme toute activité qui crée de l'emploi. Mais il faut mettre ça en regard avec ce qui se passerait si au lieu, à la place de résidence principale, on avait des résidences permanentes. Alors il n'y aurait pas cet apport de cash estival assez massif, mais par contre, il y a une présence tout au long de l'année, donc ça ferait des emplois qui seraient plus pérennes, en fait.
Pour ceux qui viennent justement du coup s'installer pour travailler sur le territoire, certains doivent parfois loger à l'hôtel ou dans leur voiture en attendant de trouver un logement.
Oui, ça arrive, ou accepter n'importe quoi, des logements dégradés ou trop chers, ou des trajets domicile-travail importants, ce genre de situation. Alors parfois, les employeurs payent l'hôtel, mais tous les employeurs n'ont pas les moyens, et puis bon, la vie à l'hôtel, c'est pas durable non plus, quoi. Ça peut aller un temps, mais personne ne veut vivre 3 mois à l'hôtel tous les ans.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui le nombre de personnes qui sont impactées, qui ont du mal à trouver un logement ?
J'ai pas ces chiffres-là. Si vous les avez, je suis preneur, mais je les ai pas. Je pense que ça se compte en dizaines de milliers.
Et au niveau de l'augmentation également, est-ce qu'on a un ordre d'idée de l'augmentation des prix des loyers et des maisons ?
Les chiffres que j'entends, qui sont des chiffres partiels, hein. C'est pas des chiffres consolidés sur l'échelle de toute la Bretagne, c'est souvent 30-40% sur des terrains, sur des logements, plus logements anciens que les logements récents. C'est ce que je lis dans des articles quand des notaires sont interviewés, c'est de cet ordre-là, et sur un laps de temps qui est bref.
On va voir dans la seconde partie que vous proposez un statut de résident pour lutter contre ce phénomène des résidences secondaires. Mais avant ça, est-ce qu'il y a d'autres maires ou collectivités locales qui tentent de se mobiliser contre ce phénomène ?
Oui, mais il y a peu d'outils pour les collectivités locales aujourd'hui. Alors, celles qui sont classées zones tendues en ont un petit peu, peuvent prendre des mesures de régulation, de fiscalité particulières, mais il y en a très peu en Bretagne qui sont considérées comme zones tendues, et ça, c'est une cartographie qu'il va falloir revoir d'urgence, à mon avis. Et sinon, le principal levier que les maires peuvent avoir, c'est construire. Avec le souci que ça entraîne, c'est que c'est une mesure efficace. Hein. On construit, ça augmente l'offre, mais ça veut dire consommer des terres agricoles ou naturelles, et on ne pourra pas le faire éternellement.
Alors je rappelle Nick Aouissin que vous êtes conseiller régional, membre de l'Union démocratique bretonne, et on est ici pour parler du phénomène des résidences secondaires. Face à ce phénomène qui conduit à une pénurie de logements, vous avez fait une proposition, celui du statut de résident. Vous allez nous expliquer dans la seconde partie de l'émission en quoi ça consiste, mais tout d'abord, avant de revenir pour cette seconde partie, est-ce que votre proposition est la solution à ce problème ?
Alors, je dirais pas la solution parce que je pense qu'il en faut plusieurs, mais c'est une réponse, et je pense que c'est un élément clé. Dans tous ceux qui ont critiqué ma proposition, aucun n'a fait de proposition alternative crédible. Donc je pense que c'est indispensable, mais qu'il y a autre chose à faire aussi. Parce que je pourrais rentrer dans le détail tout à l'heure, mais ça répond pas à toutes les questions sur la location, par exemple.
On fait une pause musicale dans Hâte du Pépin et on retrouve Nick Aouissin juste après Trianne, La découverte ou l'ignorance.
Le breton est-il ma langue maternelle ? Non. Je suis né à Nantes où on ne le parle pas. Suis-je même breton ? Vraiment, je le crois, mais de pure race. Qu'en sais-je et qu'importe ? Séparatiste, autonomiste, régionaliste ? Oui et non. Différent. Mais alors, vous ne comprenez plus. Qu'appelons-nous être breton ? Et d'abord, pourquoi l'être ? Français d'état civil ? Je suis nommé français, j'assume à chaque instant ma situation de français. Mon appartenance à la Bretagne n'est en revanche qu'une qualité facultative que je puis parfaitement renier ou méconnaître. Je l'ai d'ailleurs fait, j'ai longtemps ignoré que j'étais breton. Français sans problème, il me faut donc vivre la Bretagne en surplus, ou pour mieux dire, en conscience. Si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d'être en moi. Si tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d'être. La Bretagne n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, des hommes se reconnaissent bretons. À cette heure, des enfants naissent en Bretagne. Seront-ils bretons ? Nul ne le sait. À chacun, l'âge venu, la découverte ou l'ignorance.
C'était Trianne, la découverte ou l'ignorance, et tout de suite on retrouve Nil Kaoussin pour parler des résidences secondaires.
A du Pépa,
Radio Broadway.
On est de retour dans A du Pépa avec Nil Kaoussin, conseiller régional et membre de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, pour parler du phénomène des résidences secondaires en Bretagne et notamment dans le Morbihan qui conduit à une pénurie de logements et une hausse du prix des loyers et du prix des maisons. Face à ce phénomène, Nil Kaoussin, vous avez proposé lors des dernières élections régionales un statut de résident. Comment vous est venue cette proposition ?
Elle est venue de Corse puisque c'est une revendication de la collectivité territoriale de Corse, assez largement partagée hein, puisque certes c'était proposé par les nationalistes corses, mais soutenu par d'autres, le président de la collectivité territoriale de Corse à l'époque qui était au Parti radical de gauche par exemple. Donc il y avait un consensus assez large en Corse là-dessus, c'est une mesure qui m'avait interpellé. Et en voyant l'aggravation de la situation immobilière en Bretagne, et notamment la demande en résidence secondaire, je me suis dit que c'est une proposition qu'il faudrait peut-être réfléchir à adapter pour l'utiliser en Bretagne.
Alors en Corse, par exemple, ils proposent pendant 5 ans d'interdire les personnes d'acheter un bien.
C'est ça, il faudrait avoir résidé 5 ans en Corse pour avoir le droit d'y acheter un bien immobilier. L'objectif étant que le marché soit réservé aux gens qui vivent en Corse, pour se protéger de la spéculation immobilière et de l'achat massif de résidences secondaires. Pour la Bretagne, je n'ai proposé qu'un an dans mon livre. Bah, tout se discute, hein. Je ne suis pas propriétaire de l'idée ad vitam aeternam. Mais si j'ai proposé un an, c'est parce que on a en Bretagne beaucoup de gens qui viennent s'installer, mais pour vivre en Bretagne aussi, en plus des résidences secondaires. Et je ne souhaitais pas mettre à l'écart trop longtemps les gens qui viennent vivre en Bretagne, pour ne pas créer deux catégories d'habitants, en fait. Donc un an. Moi, j'estime qu'en Bretagne, ça suffit parce que de toute façon, les gens qui achètent pour spéculer ou pour la résidence secondaire ne vont pas venir vivre un an sur le territoire spécialement pour ça. Enfin, on en trouvera peut-être un ou deux, mais ce sera exceptionnel. Donc, un an, à mon avis, suffirait à réduire drastiquement cette demande qui est secondaire justement par rapport à la demande en résidence principale.
Est-ce qu'il y a d'autres critères dans cette proposition de statut de résident ?
Alors, le critère, c'est un an de résidence. Pas de location, de résidence, ça que j'insiste là-dessus, parce que il s'agit pas de permettre à quelqu'un qui ne vit pas sur le territoire de louer un an sans y mettre les pieds pour pouvoir acheter après, ça c'est pas l'objectif. Par contre, je l'ai pas conçu comme une proposition pour l'ensemble de la Bretagne, forcément. C'est-à-dire que ça se mettrait par pays. C'est-à-dire que c'est pas vous avez vécu un an au hasard à Rennes, vous pouvez acheter à Pleyber-Christ. C'est plutôt, par exemple, à l'échelle du Trégor, à l'échelle du Pays de Vannes. L'idée étant d'abord que toute la Bretagne n'est pas touchée par le phénomène de la même manière. En tout cas, avant Covid, l'intérieur était beaucoup moins touché et le marché était beaucoup moins tendu. Et aussi parce qu'il y a une forte demande de résidence secondaire à l'intérieur de la Bretagne. Et donc, si on mettait un statut unique à l'échelle de toute la Bretagne, on ne s'attaquait pas à cette demande-là, finalement. Donc, avec cette proposition de le faire par pays, je pense qu'on coupe 95% de la demande en résidence secondaire.
Et qui contrôlerait ?
Tout simplement, au moment où on achèterait un bien immobilier, il faudra avoir un document prouvant qu'on a résidé un an sur place. Donc, à charge pour le notaire de s'assurer de la conformité de tous les documents. Ça ferait un de plus, mais c'est pas une procédure très lourde. Hein. Ça arrive souvent dans la vie d'avoir à justifier de sa résidence principale. Moi, ça m'est arrivé pour des mutations au boulot, pour ouvrir un compte en banque, pour un certain nombre de choses. Donc, ce serait pas plus compliqué que ça.
Et comment on vérifierait que la personne habite vraiment dans cette résidence ?
On doit déclarer sa résidence principale. Quand on possède plusieurs biens, on est censé dire où on vit pour de vrai. Donc, ça suffira à mon avis. Après, on m'a dit qu'il pouvait y avoir des risques de fraude. Ça peut arriver, mais pour tout dispositif, il y a de la fraude. Pour les aides sociales, il y a de la fraude. Pour les impôts, il y a de la fraude. Il n'y en a pas tant que ça non plus, forcément. C'est pas une raison pour tout remettre en cause.
Vous le disiez, votre idée vous a été inspirée par ce qui se fait en Corse. Les Corses, aujourd'hui, ont fait cette proposition, mais se heurtent au blocage de l'État.
Oui, alors c'est Emmanuel Macron, c'est un blocage politique. Ils ne veulent pas de cette mesure parce que Ah, je pense que pour eux, l'idée qu'on puisse restreindre le pouvoir que donne l'argent, c'est une idée inacceptable. À mon avis, c'est idéologique, hein, tout simplement. Parce que, encore, c'est la solution raisonnable. Ce que Macron a répondu à la collectivité territoriale de Corse, c'est « Non, non, il ne faut pas mettre en place de statut de résident, il faut assouplir les règles de construction, c'est-à-dire construire plus. » Donc un espace qui est très contraint, avec voilà, des zones agricoles qui sont menacées, avec un littoral à protéger, et la réponse, c'est « construire plus ». Donc c'est un choix politique que l'État impose, puisqu'on est dans un pays centralisé et que l'État a beaucoup de pouvoir par rapport aux régions. Mais j'estime que c'est pas la bonne réponse. Je vais prendre un exemple qui est celui de l'Île-de-France, où bon, le problème c'est pas tant les résidences secondaires que les locations touristiques et notamment Airbnb. L'année dernière, il y a eu voilà, plus de 20 000 logements de construction en Île-de-France, et cette hausse a été presque totalement absorbée par l'extension de la location touristique. C'est-à-dire qu'on a construit, mais ça a juste permis de maintenir le niveau de l'eau, en fait. Et on voit aujourd'hui que juste la politique de l'offre, juste construire plus, ça ne suffit pas. Parce que, voilà, on a une demande en résidence secondaire et en location de courte durée touristique qui explose. Et si on ne les régule pas, ben, les efforts seront de construction seront vains, finalement.
Airbnb, peut-être, a bouleversé aujourd'hui le marché ?
Oui, Airbnb notamment, qui s'ajoute à la résidence secondaire et qui ajoute une pression supplémentaire. Et sur les lotissements qu'on construit en ce moment en Bretagne, parce qu'on en construit encore, on ne sait pas combien seront dédiés à la résidence secondaire, combien seront dédiés à Airbnb.
Vous le disiez, les Corses se heurtent aujourd'hui au blocage de l'État, donc ce n'est pas aujourd'hui pas imposé en France, mais il y a d'autres exemples ailleurs.
Oui, et c'est important parce que ça montre d'une part que c'est possible, que l'économie de ces pays-là ne s'est pas effondrée, et que ce n'est pas contraire au droit européen, puisque l'exemple que je connais le mieux, c'est celui des îles Åland. C'est un archipel qui fait partie de l'État finlandais, donc membre de l'Union européenne, qui a un statut d'autonomie, et un des volets de ce statut d'autonomie, c'est un statut de résident. Alors, pour acheter un bien ou une entreprise, il faut avoir vécu 5 ans dans ces îles, résider 5 ans dans ces îles, et ça fonctionne. Donc, si l'Union européenne autorise, en tout cas ne s'oppose pas à cette durée minimum de 5 ans, on ne voit pas pourquoi une durée de 1 an serait retoquée.
Donc ça ne s'oppose pas au droit européen, mais est-ce que ça pourrait s'opposer au droit français ?
La question est ouverte. Emmanuel Macron dit que ça s'oppose à la Constitution, mais il n'a pas argumenté là-dessus. Moi, on ne m'a pas cité d'article de la Constitution qui interdit ça. On m'a dit droit de propriété, droit de propriété. D'abord, ce n'est pas une proposition d'expropriation générale des propriétaires actuels. C'est une proposition de régulation de l'accès à la propriété. Et il y a déjà en droit français des dispositifs qui régulent, voire qui remettent carrément en cause le droit de propriété. Hein. On peut préempter, si c'est justifié par l'intérêt général, c'est-à-dire imposer à un vendeur, un acheteur. On peut même exproprier, ça c'est fait, à partir du moment où il y a un projet d'intérêt général. Et qui définit l'intérêt général ? Ben, c'est les élus, tout simplement. Donc si on considère que le droit au logement en Bretagne est d'intérêt général, ça autorise déjà la remise en cause partielle du droit de propriété.
Mais est-ce que ça va pas à l'encontre des principes de liberté et d'égalité ?
Ça dépend comment on les conçoit. Si on conçoit que c'est la liberté d'acheter partout n'importe quoi pour tout le monde, peut-être. Mais moi, je considère que dans la vie réelle aujourd'hui, ces principes sont remis en cause par les déséquilibres du marché qui sont irrésolus. Le principe de liberté, il est remis en cause quand des gens n'osent pas déménager ou ne peuvent pas s'installer là où trouvent un travail. Et le principe d'égalité, quand on voit les inégalités énormes d'accès au marché et au logement, qui est un... Voilà, c'est pas acheter des bonbons, c'est essentiel pour vivre. Et voilà, aujourd'hui, on a des gens qui ont 4 ou 5 résidences et d'autres qui n'en ont pas et qui se logent dans des logements dégradés ou loin de leur travail ou de leur lieu de vie. Donc, dans la réalité, ces principes de liberté et d'égalité sont gravement menacés par le fonctionnement actuel du marché de l'immobilier. Et si on s'intéresse à la liberté et à l'égalité réelle, il faut réguler ce marché.
Ça empêcherait quand même certaines personnes qui ont les moyens d'acheter une résidence secondaire ?
Oui, je l'assume et je considère que c'est plus important de garantir à tout le monde d'avoir un logement digne là où il vit ou veut vivre, que c'est plus important que de permettre à d'autres d'avoir plusieurs logements.
Votre proposition de statut de résident, également Neil Kawissin, ça pourrait avoir une incidence négative sur les futurs vendeurs qui avaient acheté des biens peut-être pour spéculer ?
Alors oui, effectivement, ceux qui ont acheté un bien pas très cher ou déjà un peu cher, mais dans un contexte de montée des prix en espérant le vendre plus cher, perdraient avec ce statut, puisque l'objectif principal étant de faire baisser les prix, évidemment, les vendeurs toucheraient moins, ça c'est clair.
Vous avez écrit donc un manifeste pour défendre ce statut de résident en Bretagne. Quels sont les retours que vous avez sur ce manifeste ?
Très 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 contrasté. Alors les retours des gens qui l'ont lu en général sont très positifs, très intéressés. Il y a quelques catégories de population qui me font des retours négatifs, beaucoup d'élus qui ont peur de ça, et bon, des professionnels de l'immobilier dont les revenus sont indexés en partie sur les prix de vente, voilà. Et des propriétaires de résidences secondaires. Ça, c'est ceux qui me font des retours négatifs. Par contre, de la part des gens qui sont concernés ou qui ont des proches qui sont concernés par les problèmes de logement, les retours sont souvent positifs.
Également des élus, des communes peut-être impactées ?
Pour l'instant, j'ai peu de retours positifs d'élus, honnêtement. Je pense que c'est une proposition qui leur fait peur. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'entends poursuivre le débat dans les mois qui viennent.
Vous avez fait cette proposition du statut de résident lors des dernières élections régionales. Depuis, vous avez été élu à la région, mais vous n'avez pas réussi encore à convaincre la majorité de l'utilité de votre proposition ?
Non. Alors, le président du conseil régional s'est déclaré opposé pendant la campagne, avec des arguments qui, bon, certains sont idéologiques, certains, pour moi, sont un petit peu à côté. On me dit, c'est pas à l'administration de décider qui est breton, mais ça n'a jamais été une question d'identité. Il ne s'agit pas de dire il y a les bons et les mauvais bretons, c'est pas un critère de langue ou d'identité ou quoi que ce soit de ce genre, c'est un critère de résidence. Donc on peut venir de n'importe où, on peut ne pas se sentir breton, c'est pas la question.
L'idée également intéresse d'autres territoires, puisque vous avez été invité notamment à Toulon lors des journées d'été de région et peuple solidaire, et vous serez bientôt également invité dans le Pays Basque.
Tout à fait, ben le Pays Basque connaît une situation similaire à la Bretagne, c'est-à-dire forte pression, donc des prix qui augmentent, et en même temps une menace sur les terres agricoles, donc un besoin de régulation de la demande. Alors pour l'instant, il y a des maires qui se lancent dans des politiques fiscales, c'est-à-dire mettre des impôts en plus sur les résidences secondaires. Ils ont le droit de le faire parce qu'ils sont classés zone tendue, mais est-ce qu'ils ont encore le droit de le faire dans un an ? C'est pas sûr, parce qu'il y a des velléités dans certains milieux politiques de limiter ce droit-là pour les maires. Et moi, je crains que ça ne suffise pas, la fiscalité, parce que le propre des gens qui ont beaucoup de moyens, c'est qu'ils peuvent payer plus d'impôts que les autres. Donc, je ne suis pas certain. On va voir, hein, je suis curieux de le voir, mais je ne suis pas certain que ces surtaxes feront vraiment baisser les taux de résidence secondaire. Par contre, ça dégagera des moyens, et ça, c'est bon à prendre. Et si on peut affecter ces moyens pour rénover des logements, par exemple, tant mieux.
Votre proposition, en tout cas, suscite l'intérêt de représentants de d'autres régions, notamment de la Savoie, de la Catalogne et de la Provence ?
Exactement. Alors, les caractéristiques communes, c'est que c'est des zones touristiques et depuis longtemps, donc qui subissent ce phénomène et qui, comme en Bretagne, voient une aggravation de ce phénomène et s'interrogent sur les mesures à prendre. Et c'est très important pour moi d'avoir cette discussion avec d'autres territoires en France et en Europe parce que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, l'État fait un blocage sur la demande corse notamment. Plus on sera nombreux à le revendiquer, plus ce sera difficile pour l'État de tenir sur une position de blocage et plus il sera nécessaire d'en venir à une position de dialogue.
Est-ce qu'on peut espérer également une stabilisation du marché, voire une décroissance une fois que l'on aura dépassé l'euphorie de la crise du Covid ?
Alors j'aimerais bien, ce serait un vrai soulagement de se dire que c'est une bulle qui va retomber, peut-être. Mais c'est pas certain non plus, parce qu'il y a des phénomènes de long cours. Le fait que la Bretagne soit perçue comme un refuge climatique et que donc elle devienne plus attractive que par exemple le littoral provençal ou aquitain pour acquérir une résidence secondaire, ça risque de durer. Voilà, les conséquences de la pandémie, on ne sait pas combien de temps elles vont durer. On ne peut pas parier sur le fait que le marché va retomber naturellement. C'est une possibilité, mais il faut s'organiser pour trouver des réponses au cas où cette situation perdure.
Vous l'avez dit, la Bretagne attire. Alors, est-ce qu'au final, on peut réellement quelque chose contre ce phénomène de résidence secondaire ? Ou est-ce que ce n'est pas inévitable que certains territoires soient plus attractifs que d'autres ?
Alors, qu'il y ait des territoires plus attractifs que d'autres, ça a toujours été le cas. Mais on peut réguler, on peut tout à fait réguler. Le statut de résidence, c'est un dispositif qui est opérationnel dans d'autres pays, qui fonctionne. Le blocage, il est idéologique, mais il n'est pas pratique. Demain, si on a une majorité au Parlement qui l'autorise, ça peut être mis en place assez rapidement. Ça peut aussi être expérimenté pour vérifier si ça marche avant de l'étendre à de nombreux territoires. Donc, on a cité le statut de résident. La surtaxe, on pourrait l'étendre à beaucoup plus de zones que ce qui existe actuellement. On pourrait l'étendre à l'ensemble du territoire si les maires le demandent. On pourrait encore mieux mettre en place une surtaxe régionale parce que là où il y a déjà 80%, 70% de résidences secondaires, pas sûr que les maires osent le faire. Voilà, et on pourrait flécher le produit de cette surtaxe pour financer des opérations de rénovation de logements. Ça existe déjà, ces opérations, mais on en sort très peu. L'établissement public foncier de Bretagne, par exemple, ça permet de faire sortir 600, 700 logements par an en renouvellement urbain. C'est très bien, mais les besoins, c'est beaucoup plus. On parle plutôt de 20 000 logements par an en besoin. Donc, il faut mettre plus d'argent, il faut aller plus vite. La fiscalité pourrait permettre de dégager des moyens pour ça, en plus de systèmes de régulation. Et on peut imaginer une sorte de grande réponse globale où on a le statut de résident qui réduit la pression, qui fait baisser les prix, qui réduit notamment la demande en résidence secondaire, et des opérateurs publics qui, grâce à ces bas prix et aux produits de surtaxe, peuvent acheter massivement des logements pour les rénover, pour en faire du logement social ou de la section sociale à propriété. Et avec ce grand panel de réponses, à la fois fiscales, réglementaires et opérationnelles, on pourrait vraiment changer la donne. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas de fatalité.
Vous le disiez tout à l'heure, les projections donnent entre 400 000 et 800 000 personnes qui devraient arriver sur la Bretagne ces 15 prochaines années. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut trouver une solution.
Voilà. En fait, c'est soit on régule, on intervient, soit on mange des terres agricoles. Et donc, on se met en danger pour l'avenir.
Je rappelle Neil Caoussin, donc, que vous avez fait la proposition du statut de résident pour lutter contre ce phénomène des résidences secondaires. Vous le disiez, il y a un blocage au niveau de l'État. Est-ce que vous trouvez que l'État prend le sujet à bras le corps ou est-ce que le phénomène est minimisé ?
Il est carrément minimisé. Alors, on s'y intéresse un peu dans les grandes villes parce que ça fait longtemps qu'il y a un problème et les zones tendues sont faites principalement quand même pour les zones urbaines et les grandes zones urbaines. Même là, ça ne suffit pas. Et sinon, l'idéologie dominante, c'est toujours « il faut construire ». Voilà. Il y a un marché, il y a une demande, donc il faut une offre, il faut construire. Et ça vient percuter un autre discours qui est « il faut économiser le foncier ». Et aujourd'hui, voilà, on a deux discours contradictoires. Il faut économiser le foncier, il faut construire plus. Tant qu'on n'aura pas affronté la question de la régulation de la demande, on restera sur cette contradiction. Et le problème ne sera pas résolu.
Ça crée également de la colère, de l'anti-parisianisme, ce phénomène des résidences secondaires ?
Bah évidemment, ça crée de la colère parce que quand une partie de la population est rapidement, brutalement mise à l'écart du marché du logement, qui est un marché absolument fondamental, évidemment que ça crée de la colère parce que c'est la possibilité même de vivre quelque part qui est menacée. Après, cette colère, comme toute colère, elle est souvent injuste dans son expression parce que c'est pas seulement les Parisiens. En plus, dans ceux qu'on appelle les Parisiens, il y a des gens qui ont été obligés de partir et qui reviennent pour s'installer pour de vrai. Donc, on mélange un peu en plus résidence secondaire, résidence principale, Parisiens, gens d'extérieur. Enfin, c'est un peu fourre-tout. Hein. Et mon objectif, c'est de remettre justement de la rationalité, de proposer des réponses constructives et efficaces pour qu'on n'ait pas un affrontement entre deux catégories de population, mais des élus qui prennent leurs responsabilités et qui règlent le problème.
Neil Caoussin, je rappelle que vous êtes conseiller régional, membre de l'Union démocratique bretonne. Pour terminer, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour vous faire entendre et défendre votre proposition jusqu'au sommet de l'État ?
En parler au maximum, en Bretagne et hors de Bretagne, contribuer à la création d'un réseau pour la régulation, une régulation beaucoup plus forte du marché de l'immobilier, en parlant de statut de résident, de fiscalité, de régulation aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des locations touristiques type Airbnb, parce qu'aujourd'hui, on a très peu de zones où on peut vraiment mettre en place des systèmes de régulation. Ça existe à Saint-Malo, mais c'est récent, ça risque d'être attaqué et la plupart des territoires ne peuvent pas mettre en place ces mesures. Donc il y a tout un paquet en fait à défendre en Bretagne et ailleurs et ça va être mon travail principal je dirais pour les années qui viennent si le problème perdure.
Neil Caoussin, merci beaucoup.
Merci.
Et on termine en musique avec Jean-Michel Kéradec, Ma Bretagne quand elle pleut.
Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Et la petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. J'ai jamais osé lui dire que j'étais les amoureux, qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcheronnes. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se souviennent des barques qui jamais ne reviennent ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Quand je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'on est vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut.